Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et jusqu'à 9h30, vous l'avez compris, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Gallienne. Ce n'est pas le comédien que nous recevons, mais bien le réalisateur aujourd'hui. Marilyn, votre deuxième film sort mercredi prochain, Guillaume Gallienne. 4 ans après le très gros succès public et critique du premier, Les Garçons et Guillaume à table. Alors nous allons longuement en parler avec Stéphane Boutsock, qui est encore sous le charme, m'a-t-il dit. En ce qui me concerne, je vous dirais que je suis plutôt sous le choc de ce film perturbant et extrêmement émouvant, mais on va y revenir. Monique Younes nous emmènera visiter l'exposition L'expérience de la couleur au Musée national de la céramique à Sèvres, près de Paris. Et puis nous parlerons télévision avec Isabelle Morini-Bosque, avec un coup d'œil sur les programmes du week-end. Guillaume Gallienne, votre premier film avait réuni de mémoire 2 800 000 spectateurs, avec des prix multiples, 5 Césars. Est-ce que ça a été simple de se remettre au travail, de digérer tout cela, d'assumer cette réussite, et puis de vous y remettre pour un second film ?
Non, mais ça a été très... Oui, de toute façon, Marilyn, je l'avais en tête depuis très longtemps. J'en avais parlé à Sidonie Dumas, la présidente de Gaumont, bien avant la sortie des Garçons et Guillaume à table. Elle m'avait dit, on y va. Donc, c'était déjà dans les tuyaux, en fait.
Donc la question se posait, pression du succès du premier film n'avait pas influé sur ce projet antérieur, en fait.
Non, mais en fait, très souvent, moi, une expérience vit sa vie, mais après, c'est pas moi, quoi. C'est fait, c'est passé.
On passe à autre chose.
Oui, je me sens pas alourdi par une pression qui viendrait de tout ça, non, ça
et
va.
Donc passons à autre chose. Et à Marilyn, Stéphane Boutsock, vous nous aviez fait part dès le Festival du film francophone d'Angoulême, en août dernier, de votre coup de cœur pour Marilyn. Redites-nous pourquoi.
Alors, d'abord, parce que c'est le film qu'on n'attendait pas. Il aurait été tellement facile de profiter de la vague porteuse du premier film et de proposer Les Garçons et Guillaume, La Revanche, Le Retour, Fond du Ski, qu'en sais-je. Ah oui. Mais non, comme si ce premier film avait clos une page de votre vie, Guillaume. Posez l'artiste que vous êtes devenu, libérez la parole pour laisser s'exprimer l'auteur aussi que vous êtes. Parce que oui, Marilyn, c'est un vrai film d'auteur, mise en scène, propos, vous placez la barre assez haut. L'histoire de cette jeune femme, apprentie comédienne de province, douée pour le jeu, mais pas pour dire je, et donc se faire entendre et respecter du monde qui l'entoure, avide d'incarner les mots des autres sans parvenir à prononcer les siens. Ce portrait-là est bouleversant, fascinant, impressionnant. Marilyn est un film à la cruauté glaçante, mais rempli de passion, de générosité. Et puis alors, porté par une jeune actrice bouleversante, Adeline Dermy, on va en reparler. Oui. Habité aussi par de grands seconds rôles, Vanessa Paradis, Alice Paul, Xavier Beauvois, tant d'autres. Vous qui maîtrisez si bien la parole, d'ailleurs on vous le reproche parfois, pourquoi avoir consacré tout un film à une femme longtemps murée dans le silence ?
Parce que ça me bouleverse depuis très longtemps. J'avais donné des cours dans une ZEP à Argenteuil et j'avais été très marqué quand j'étais au conservatoire. J'avais été très marqué par des gamins qui avaient vraiment très peu de vocabulaire, par la frustration qu'ils avaient, mais surtout l'autocensure. C'est-à-dire qu'ils disaient, ça je vais pas le dire puisque de toute façon je vais le dire mal. Donc ils se tairaient comme ça dans ce silence et la violence que ça pouvait engendrer, parce qu'au bout d'un moment, quand on veut débattre, quand on n'est pas d'accord, si la personne n'arrive pas à le dire, oui, au bout d'un moment, ça devient violent physiquement. J'ai rencontré pas mal de détenus aussi qui avaient ce même handicap. Et puis en même temps, les taiseux m'intimident, m'impressionnent. Je trouve que je me dis toujours, mais c'est quoi la partie submergée de l'iceberg ? Je trouve qu'ils ont un mystère que je n'ai pas. Et en même temps, une simplicité. Ils ont l'air beaucoup plus simples, les taiseux. Ça, c'est sûr que plus on parle, plus on peut compliquer, on peut décorer. Eux, ils décorent rien du tout. C'est sans fioriture. Donc, je les envie en même temps.
C'est la fascination d'un expansif pour les introvertis, oui.
Oui, ça me touche énormément. Oui. Je trouve qu'ils ont plus de mystère. Ils m'ont toujours touché, quoi. Je les ai, voilà. Mais après, le film, c'est aussi pour parler de la bienveillance. Donc, je commence par une antithèse bien violente, pour ensuite aller vers la bienveillance.
Qu'est-ce que vous avez à dire à ce public qui a adoré votre premier film et qui va être confronté à Marilyn, qui est un film beaucoup plus rude, je vous le disais en débat.
Oui, c'est âpre, mais c'est lumineux. J'ai envie de leur dire, c'est pareil en moins drôle. Non, mais c'est-à-dire qu'on rit moins. C'est l'autre côté, c'est-à-dire que les Garçons et Guillaume à table, on se marrait tout le temps, puis il y avait des moments où ça pinçait un peu. Voilà. Là c'est l'inverse. C'est émouvant, mais ça reste lumineux.
Stéphane.
Alors, Marilyn se déroule dans le monde du cinéma, que vous montrez parfois sous un jour, là aussi, assez rude, assez violent, notamment pour les débutants et la débutante, en l'occurrence. Est-ce que c'est juste un décor, Guillaume, ou est-ce qu'il y a du vécu aussi dans tout ça? Est-ce que vous vouliez raconter aussi des choses?
Non, en fait, j'ai pris le cinéma et le théâtre comme un contexte, beaucoup plus que comme le sujet, mais c'est vrai que c'est le milieu que je connais le mieux, et puis ça me permettait d'exacerber mon propos, puisque c'est un des rares métiers où on vous dit, il faut parler ici et maintenant. Voilà, action. Bon, donc pour quelqu'un qui n'a pas les mots, c'est un peu dur. Mais après, quand on lit des biographies de certains artistes des années 70, réalisateurs, producteurs et tout ça, franchement, c'est pas que je suis light, mais presque.
C'est raccord.
C'est vraiment raccord.
Donc, quoi, sur l'abus de pouvoir et la violence, notamment avec les acteurs.
Ah ouais, mais surtout, oui, bah, les biographies de Klaus Kinski, les frères Rassam et tout. Waouh, c'était rock'n'roll quand même. Donc aujourd'hui, il y a des garde-fous qui n'existaient pas à l'époque. Et puis ça me permettait aussi de raconter un peu cette évolution entre ces films comme ça des années 70 et puis tout d'un coup les années 80 où ils étaient tous en col roulé marron et en velours côtelé. Et puis on parlait plus du cancer de Françoise et de machin. Et puis ensuite les années 90 où on va plus vers des sujets politiques, où on parle du racisme, on parle de l'exclusion. Mais ça me permettait d'évoquer aussi cette évolution-là.
C'est merveilleux, votre cinémathèque intérieure l'a évoqué en quelques mots. Alors, votre héroïne, elle souffre notamment au début du film de la violence morale et physique d'un réalisateur qui la pousse à bout. C'est un hasard de l'actualité, mais Marilyn sort au beau milieu de divers scandales, d'affaires de harcèlement envers des comédiennes dont la parole se libère. Quel regard d'homme, de réalisateur et de comédien jetez-vous sur tout ce qu'on vit en ce moment depuis l'affaire Weinstein et...
Je trouve ça formidable que le cinéma puisse... le milieu du cinéma puisse... être celui qui libère une parole, je trouve ça très important. Il était temps. Après, il y a le harcèlement des femmes, mais aussi celui des hommes. Donc, j'en ai parlé avec la secrétaire d'État, d'ailleurs, parce que c'est important. Je crois qu'il y a zéro numéro aujourd'hui où un homme peut appeler. Donc, il n'y a pas d'association, il n'y a rien. Donc, pardon. Ça me noue. Non, mais je trouve ça très, très bien que le cinéma, ce milieu, soit celui qui lance ça, qui dénonce ça haut et fort. Après, ça existe dans tous les milieux. Enfin, que ce soit la promotion canapé ou l'abus de pouvoir, ça existe malheureusement dans tous les milieux. C'est d'ailleurs, il y a des choses dans Marilyn où c'est le milieu du cinéma, mais finalement, moi, je parle... Enfin, par exemple, le fait que lorsque la contingence devient plus importante qu'un être, c'est dans plein de milieux, ça. Le fait de dire, ben oui, mais là, il n'y a pas de temps, alors faut y aller. Et on dit, mais attendez, là, cette personne, elle est fragile, donc on va d'abord s'en occuper, et puis vous verrez qu'en fait, on va gagner du temps. Au lieu de continuer le rouleau compresseur et de dire, ah, mais oui, le résultat, oui, d'accord, mais enfin, juste, ça ne peut pas être plus important que quelqu'un, quand même. Voilà.
Il y a une chose importante dans le film aussi, Guillaume, c'est le thème de la vocation. Parce que votre Marilyn se décourage à un moment, elle sombre dans l'alcool, elle se perd un peu, mais elle s'accroche, elle retente sa chance pour devenir actrice. Le mot vocation pour vous, ça part de quoi? C'est une rencontre? C'est un texte? C'est un modèle?
Justement, on ne sait pas. Ah, vous savez, c'est pas, ça qui est mystérieux. C'est très, très mystérieux. Qu'est-ce qui fait qu'on veut être acteur? C'est extrêmement mystérieux. Le déterminisme d'un prénom, est-ce que c'est parce que, entre sa mère qui lui rasait la tête parce qu'elle voulait un garçon et son père qui l'appelle Marilyn, quand même, c'est pas rien.
Ouais.
Et puis, est-ce que c'est parce qu'un jour, elle a été prise dans les bras d'une professeure qui l'a appelée mon petit oiseau et qu'elle a pu saluer un public parce qu'elle recevait un prix de bonne conduite et qu'elle avait une jolie petite robe jaune? Est-ce que c'est... et que son père était dans la salle, on ne sait pas finalement qu'est-ce qui décide de... Moi, je sais que le jour où je l'ai formulé, c'est le jour de la mort de ma cousine, j'avais 18 ans, j'ai dit, bon, ben, moi, si je peux mourir demain, il me faut plusieurs vies, donc c'est le théâtre. Mais je l'ai formulé, après, d'où ça vient exactement, je ne sais pas.
Nous vous offrons ce matin des places pour aller découvrir Marilyn, le deuxième film de Guillaume Gallienne qui sort mercredi, je vous le rappelle, au cinéma. Pour gagner, il faut répondre à cette question qui va vous être posée par Stéphane.
Question, Guillaume, qui n'est pas censé vous mettre la pression. Combien de Césars avaient remporté les garçons et Guillaume à table en 2015? Est-ce 3 ou est-ce 5?
Réponse au 32-10, mes lapins. On marque une pause dans un instant, Guillaume Gallienne. On continue de parler de Marilyn, son nouveau film et notamment de celle qui incarne le rôle titre. À tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Marilyn, le nouveau film de Guillaume Gallienne sort au cinéma mercredi prochain, le 15 novembre. Ça tombe bien, Guillaume Gallienne est notre invité jusqu'à 9h30 pour en parler. On va évoquer le casting de ce film dans quelques instants. Auparavant, on va être à la demande de l'auteur.
Il a raison.
Voilà, je reformule ma question hein, pour que vous puissiez gagner des places et aller voir son film. Combien de César avait remporté Les Garçons et Guillaume à table en 2014 ? 3 ou 5 ? Voilà. Alors, vous ne jouez pas dans ce film, Guillaume Gallienne, pourquoi ?
Parce qu'il n'y avait pas de rôle pour moi. J'ai demandé au réalisateur et le réalisateur il a dit bah, je suis désolé, mais non. Ben non, il n'y avait pas de rôle pour moi. Le premier réalisateur, je le voulais animal et sexy, donc là, c'est fait. Le deuxième, je voulais qu'il... Ben, en fait, en écrivant, j'ai pensé à Xavier Beauvois tout de suite, oui. Puisqu'il a une humanité dingue. Et puis le troisième, étant donné qu'il y a un côté genre, il la sauve et tout, la mise en abîme de regarder, c'est moi qui la sauve. Non, là, c'était pas possible.
D'autant plus que les mises en abîme, il y en a plusieurs.
Non, mais ça, surtout, c'est qu'Éric Ruff est tellement bien que voilà, j'avais pas à m'en priver.
Stéphane, vous avez rencontré celle qui incarne la Marilyn, qui donne son nom au titre du film, Adeline Dermy.
Jeune femme de 30 ans qui a déjà joué au cinéma. On l'a vu notamment dans Yves Saint-Laurent, de Jalil Lesper, où vous fûtes Pierre Berger, Guillaume, sociétaire de la Comédie française depuis 2016, c'est pas une révélation, moi je dirais que c'est une apparition. Adeline Dermy illumine le film par sa beauté, sa détresse. Elle bouleverse d'un mot, d'un sourire. Ce premier rôle va marquer et va la marquer. Je lui ai demandé si elle était consciente et si elle était consciente de cela et si elle avait un message pour vous ce matin, Guillaume.
Oui, j'ai l'impression d'être un moment différent, bien sûr, parce que c'est la première fois que, au cinéma, du moins, on me fait confiance à ce point-là, comme Guillaume le fait, avec un rôle pareil, un rôle aussi beau. Ce qui me fait énormément plaisir, c'est que je me suis rendu compte, en fait, à quel point j'avais aimé faire du cinéma, à quel point j'avais aimé tourner, moi qui n'ai pas l'habitude, je savais pas du tout. Ouais, c'est un moment charnière en ça, quoi, où je découvre complètement autre chose. Qu'est-ce que je peux dire? Que je le remercie infiniment pour cette aventure qu'il m'a offert et que je trouve qu'il est merveilleux. Et il part aux États-Unis et va vachement me manquer. Voilà. Et j'ai hâte de le retrouver en juillet. Parce qu'on va jouer ensemble en juillet à New York, une pièce de théâtre, Les Damnés d'Ivo Vanov. Et que je vais être très très heureuse de le retrouver. Voilà.
C'est joli, il va me manquer quand même.
Ouais. Hein,
vous savez quoi, il y a des rencontres de comédiennes comme ça. Moi, je me souviens de Sandrine Bonnaire dans Saint-Antoine. Je me rappelle d'Anouk Grimberg chez Blier. La première fois où on les voit, il se passe ça avec Adeline dans votre film. Est-ce que c'était votre choix de proposer le rôle de Marilyn à un visage pas inconnu, mais méconnu en tout cas du grand public?
Oui, oui, je trouvais ça... Je trouvais ça important que les acteurs connus du film soient des personnages qui puissent être connus, mais que les autres ne soient pas connus du grand public. Je trouvais ça important pour que le spectateur plonge vraiment dans l'histoire sans se dire « Ah tiens, le voilà, celui-là voilà. ». Aussi, j'aimais bien le... J'en avais les moyens, Gaumont m'en donnait les moyens, donc j'en ai profité. Donc j'en ai profité pour mettre sur les 52 rôles, il y en a 48 qu'on ne connaît pas vraiment beaucoup. Le chef machinot belge m'a dit « Mais c'est formidable, parce que là, on découvre plein d'acteurs formidables qu'on ne connaît pas. Il n'y a que les Anglais qui osent ça. » Et donc voilà, j'étais content qu'un Français puisse le faire. Merci Gaumont.
Ça, c'est le chef opérateur que vous venez de nous faire ?
Non, c'est le chef machinot.
Ah pardon, le chef machinot. Non,
et le chef opérateur, il est belge aussi, mais moins l'accent. Et Christophe Bocarn, que je sais. Donc, et puis j'ai pu engager, j'ai pu proposer des rôles à plein de potes de la Comédie française. Donc ça m'a fait plaisir aussi, et pas des moindres. Et voilà.
Vous savez, Adeline Dermy là vient de vous remercier de lui avoir fait confiance. Mais moi je suis pas d'accord. C'est vous qui devriez la remercier qu'elle vous ait fait confiance de l'embarquer dans une histoire aussi incroyable.
Moi je suis bien d'accord. Mais je suis bien d'accord avec vous. Mais je lui ai proposé le rôle il y a 3 ans. J'y suis allé très délicatement. On a travaillé beaucoup quand même ensemble. Voilà, donc je lui ai proposé... En fait, j'ai écrit en pensant à elle.
Ah, Stéphane. Ouais.
Un mot du petit rôle. C'est pas péjoratif, loin de là, de Vanessa Paradis. Quelques scènes, mais alors, il se passe quelque chose. Scène magistrale. Elle joue le rôle d'une star de cinéma qui va en fait aider Marilyn à trouver sa place et les mots qui lui manquent. Vanessa Paradis s'appelle Jeanne dans le film. Très difficile de pas y voir un hommage à Jeanne Moreau dans la coiffure, l'attitude, le phrasé, c'est ça?
En fait... cette partie du film, c'est une histoire qu'on m'a rapportée de Jeanne Moreau. D'accord. Dans un film de Michel Drache, sur un tournage de Michel Drache. Et c'est elle qui, en effet, à un moment, a dit « Excusez-moi, mais je voudrais avoir un moment seul avec mademoiselle. » Et elle l'a prise à part et elle l'a sauvée.
La mademoiselle étant incapable de prononcer le moindre mot dans la scène qu'elle doit tourner. Je voilà, précise pour nos auditeurs.
Et donc j'avais prévenu Vanessa d'où ça venait. Maintenant, Vanessa à aucun moment a pensé à faire une imitation de Jeanne Moreau. C'est pas le propos.
Pas.
Mais voilà, c'est vrai que tout d'un coup, on voit chez Vanessa Paradis la grande dame qu'elle est.
Vous savez le choc que ça nous provoque, parce que d'abord c'est la première respiration qu'on a dans ce film, parce que c'est tellement dur dans la première partie, et qu'ensuite on ne peut pas, enfin à chaque fois qu'on voit Vanessa Paradis, on pense aussi à Jeanne Moreau et à ce moment extraordinaire qu'on avait vécu quand elles ont chanté ensemble.
Oui.
Donc tout ça
oui.
est présent forcément, enfin ça vient avec le film.
Bah, c'est l'avantage de l'écriture contemporaine, c'est oui. que les choses s'additionnent.
Ouais. Ah bah, puisqu'on parle de Vanessa Paradis, elle et vous nous offrez un cadeau sur le générique de fin du film. Écoutez cette sublime reprise de la chanson « Cette blessure » de Léo Ferré.
Cette blessure comme un soleil sur la mélancolie, comme un jardin qu'on ouvre que la nuit, comme un parfum qui traîne comme un sourire sur ma destinée, cette blessure d'où je viens.
Chanson de Ferré 1970. Marilyn sort donc au cinéma mercredi. Si on regarde les projets du comédien Guillaume Gallienne, vous serez le 6 décembre de nouveau la voix de l'ours Paddington.
Ouais.
Dans Paddington 2.
Oui. Il est top.
Il est top.
Oh, mais il est dément. Hugh Grant en méchant mais savoureux au-delà.
Il parle comment, Paddington? Comment il fait?
Paddington, comment il... mais moi il faut que je le joue. Pas.
Il est tout timide, il est tout.
Ouais, non, ouais. Non, je.
Bon, on va le trouver pour
une réplique, je sais pas moi.
Hein?
Vous voulez que je vous lance une réplique?
Ouais, vas-y.
Alors Paddington, qu'est-ce que tu fais ce matin?
Je mange de la marmelade.
Je crois qu'on a raté notre effet.
On va mettre bonne humeur.
Bon, allez, on va marquer une nouvelle pause dans ce Laissez-vous tenter. Tentez. Dans un instant, Guillaume Gallienne, vous nous suivez au musée avec Monique Younes et à la télévision avec Isabelle Morini-Bosque. On va passer un très bon moment avec nos deux camarades.
RTL Matin,
Laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Nous sommes toujours avec Guillaume Gallienne. On va parler maintenant Guillaume Gallienne Télévision avec Isabelle Morini-Bosque. On commence avec les audiences d'hier soir et Médiamétrie, Isabelle.
Eh bien, je suis ravie parce que le feuilleton de TF1, Le Tueur du Lac, a très bien démarré. 6 600 000 téléspectateurs et 28% du public sur la une. Comme disait Guitry, personne n'a aimé à part le public. Deuxième envoyé spécial, 2 700 000 téléspectateurs et 12% du public sur la 2. Et troisième, Cauchemar en cuisine, c'était pourtant une rediffusion. Et bravo notre camarade Julien Courbet qui a battu son record d'audience hier sur C8 avec C'est que de la télé vers 17h30.
Parfait, je sais que vous aimez ce soir sur France 3 l'émission consacrée aux artisans, que vous serez demain devant Danse avec les stars sur TF1, mais l'événement, il est plutôt sur M6 dimanche.
Oui, avec un zone interdite consacrée aux transgenres, ces filles nées dans un corps de garçon, ces garçons nés dans un corps de fille, et qui décident, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il leur en coûte, financièrement également, de faire coïncider, après transformation, leur identité légale et leur identité réelle, la façon dont ils se sentent. Comment vous dire? Est-ce que j'aurais regardé ce doc sans obligation professionnelle de le faire, puisque l'une de mes missions, c'est de regarder la télé? Pas sûr un dimanche soir. J'étais prête à en dire du bien pour peu qu'on me dispense de regarder. C'est un soir où j'ai envie de me détendre. Eh bien, j'aurais eu tort. Parce que c'est un chef-d'œuvre de délicatesse, d'intelligence et surtout d'humour faculté qui sont tous obligés de développer. C'est vraiment formidable. Comme dit l'autre, ils savent tous mettre des mots sur leurs mots, comme Arnaud, beau policier, papa d'un petit garçon, il était femme autrefois, et particulièrement heureux d'avoir été soutenu par sa hiérarchie qui a suivi toute sa mutation du féminin au masculin.
Ben oui, ça a remplacé mes parents. Moi, j'ai construit mon genre masculin à 3 ans, j'ai jamais été une fille. Mon père, qui est quand même pédopsychiatre, s'en est aperçu tout de suite. C'est quand même son boulot. Mais à l'époque, il pensait peut-être qu'il pouvait redresser la situation ou quoi, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il n'était pas d'accord. Il s'engueulait des fois avec ma mère. Si ma mère, elle s'en foutait, elle m'achetait des pantalons, il n'était pas content. Mais bon, en même temps, si on achetait des robes, c'était impossible de les mettre. C'était comme essayer de mettre des vêtements à un loup. Hein. J'aurais pu mordre et tout. Enfin, je devenais violent physiquement si on essayait de m'habiller en fille. Encore que ça va, ils n'ont pas pu m'empêcher de jouer avec des G.I. Joe. Hein. Tu sais, ça lui faisait peur parce que dans sa tête, les trans, c'est des gens qui souffrent et ils ne voulaient pas que je souffre. Donc il m'a fait souffrir. Voilà.
Voilà.
C'est extraordinaire ce témoignage.
Il est extrêmement touchant et on est touché justement parce que l'ensemble de l'émission est touchante. C'est un formidable doc.
Le débit.
Oui.
On sent, oui, on sent qu'il se libère un peu,
oui.
Ça parle.
Et le regard bouge tout le temps. C'est impressionnant et c'est très touchant.
Je vais vous emmener à Sèvres maintenant, Guillaume, au Musée National de la Céramique, visiter l'exposition « L'expérience de la couleur » qu'a vue pour nous Monique Younès. Chère Monique, bonjour.
Bonjour, c'est une exposition qui va vous passionner, Guillaume Gallienne, car tout est à la fois possible et très difficile dans l'art de la céramique. Et comme au théâtre, les réussites relèvent du prodige et elles gardent souvent leur mystère. Et cette exposition regroupe 500 objets en céramique du monde entier, du 18e à nos jours, des pièces réalisées par d'illustres artistes, pour ne parler que des contemporains, cela va de Pierre Soulages à Bertrand Lavier, de Louise Bourgeois à Chieko Katsumata, que tout le monde connaît autour de cette table.
Bien sûr,
des artistes qui ont réalisé des couleurs les plus simples aux plus complexes. Et le laboratoire du Musée National de la Céramique a été reconstitué dans l'exposition. On peut comprendre ainsi comment ont été créées toutes ces variétés de couleurs, du vert fluo à l'orange pétaradant. Plus de 1000 nuances sont aujourd'hui disponibles. Le bleu, par exemple, est riche d'une vingtaine de nuances. Et c'est Christine Germain-Donat, la directrice des collections de Sèvres, qui me l'a expliqué, œuvre à l'appui.
Le bleu, qui est effectivement la couleur emblématique de Sèvres, dont le fameux bleu céleste mis au point pour le service de Louis XV. Et par la suite, on aura le bleu du roi, le gros bleu, le bleu de Sèvres, etc. C'est le feu qui donne cette transformation-là. En fait, rien ne se fait avant le feu. Donc la couleur, elle prend toute son intensité lors de la cuisson et après. Ça veut dire que tous les artistes travaillent à l'aveugle, recouvrent les pièces de peinture en ayant dans la tête ce que ça va donner. Alors quand vous faites un aplat, tout va bien, mais quand vous commencez à faire des superpositions, des dégradés, et que vous ne voyez pas ce que ça donne avec vos couleurs, mais que vous l'anticipez, c'est ça la magie, en fait, de Sèvres aussi.
Et on apprend à Sèvres que le rouge est la couleur la plus difficile à obtenir. L'artiste Bertrand Lavier, pour réaliser le premier canapé en porcelaine de Sèvres, qu'il a appelé la bocca, puisqu'il a la forme d'une bouche rouge géante, a dû s'y prendre 8 fois pour obtenir le même rouge sur les 8 morceaux que constitue le canapé. Le deuxième enseignement de cette exposition, c'est que la couleur n'est pas uniquement de la perception, de la sensation, c'est aussi de la mémoire, une configuration mentale, sentimentale. C'est un élément culturel. D'ailleurs, votre épouse, coloriste Amandine, a publié « Les 100 mots de la couleur » aux éditions PUF, où elle raconte ça. Alors, si le bleu évoque entre autres le mystère, le rose évoque la peau, et le rouge, Guillaume Gallienne,
le sexe.
Bien sûr, l'amour entre autres.
Merci beaucoup Monique Younès. On va se dire au revoir dans un instant.
Non.
Ben, je suis désolé. Regardez, il est dans son studio.
Bon,
Julien Courbet.
Ah bah oui, bon d'accord.
Bon, mais alors en plus hier soir, il a battu des records.
Bon, allez, alors.
À tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Il est grand temps de nous séparer. Alors, en 3 questions. D'abord, combien de César avaient remporté les garçons et Guillaume à table, cher Guillaume Gallienne, en 2014?
5.
Vous nous avez appelé, vous avez gagné des places pour aller découvrir Marilyn, beaucoup, votre deuxième film, qui sort donc mercredi. L'expérience de la couleur au Musée National de la Céramique à Sèvres, c'est jusqu'au 2 avril 2018. Vient de me souffler Monique Younès.
Décidément.
Vient de me moucher.
Faut consulter.
On peut retrouver Julien Courbet. Joyeux anniversaire à Amandine une dernière fois.
Merci.
Et bienvenue à Julien Courbet.
Dites donc, c'est quand même un peu décousu cette fin d'émission.
Oui, c'est vrai. C'est
ça part dans tous les sens. Vous avez eu 5 César, le gagnant s'appelle dire. On dit bonjour à Julien Courbet, me dit Monique Younès. Bon, tout va bien.
Faut que je me repose, je crois.
Bah, bravo pour les records.
Et bravo, mais c'est très gentil. Oui. Oh, vous savez, ça va, ça vient. Hein. Mais enfin.
Là, ça va.
Comme quand ça vient, ça va. Bonne journée, bon week-end à tous.
Bonne émission.